premier rendez-vous. Pauline Vrolix.
Un après-midi de personnalité, une première rencontre toujours singulière, en direct sur La Première. Notre première invitée est une Parisienne expatriée au Locle. Cette ville que beaucoup aiment critiquer, elle l'aime d'amour, et ce depuis son arrivée dans les montagnes neuchâteloises il y a une trentaine d'années. Avec son mari François, il crée en 2011 la Luxor Factory, un grand loft dans une ancienne entreprise d'horlogerie où des artistes du monde entier viennent séjourner et créer. Depuis 2018, le focus est mis sur des artistes urbains de renommée internationale qui habillent les murs du Locle de grandes fresques. Un musée à ciel ouvert qui prend le nom d'Exomusée. Un exomusée que cette journaliste quinquagénaire, localière pour les pages d'Arc Info, défend avec une passion renouvelée. Notre deuxième invitée débute son parcours comme enseignante de la petite enfance. Rapidement, cette Lausannoise se tourne vers les milieux culturels. Tour à tour directrice du théâtre de l'Échandolle à Yverdon, responsable de projet à Expo 02, puis responsable du Village du Monde au Paléo, elle va aussi occuper la place de directrice adjointe au Festival de la Cité. À 47 ans, cette créative au brin de folie assumée, qui plus jeune touche au théâtre de gestes à Paris et à la comédie musicale aux États-Unis, décide de se former à l'art-thérapie. Une révélation pour cette désormais quinca qui travaille tant avec des privés qu'avec des institutions. L'art, c'est la vie, et réciproquement. Notre première invitée est Sylvie Balmer. Notre seconde invitée est Anne-Dominique Chevalet. Bienvenue dans Premier Rendez-vous.
De 14h à 15h, Premier Rendez-vous.
Bonjour Sylvie Balmer.
Bonjour Pauline.
Bienvenue à vous.
Merci beaucoup.
Bonjour Anne-Dominique Chevalet.
Bonjour Pauline.
Et bienvenue à vous aussi.
Remercie.
Sylvie Balmer, on commence avec vous. Vous allez nous raconter, comme c'est la coutume dans Premier Rendez-vous, un premier rendez-vous qui vous a beaucoup touché, peut-être bouleversé. Vous avez envie de parler de quoi ?
Alors, pour répondre à cette question, forcément j'ai envie d'évoquer la rencontre avec mon mari François, hein, que j'ai épousé il y a 25 ans, et puis voilà, qui partage ma vie, mais aussi avec lequel on a développé ce projet d'Exomusée. Donc forcément je pense à François, je pourrais aussi parler de mon fils Roméo, avec lequel j'ai une magnifique complicité. Mais pour ce premier rendez-vous, j'ai choisi de vous parler de mon coup de cœur pour... la région des montagnes neuchâteloises, comme vous l'avez évoqué au début de l'émission. Donc voilà, une rencontre. C'est vrai que je vivais à Paris, j'avais envie de quitter cette ville où j'ai fini par m'ennuyer. Ça va surprendre probablement pas mal d'auditeurs, mais c'est une réalité. Et puis j'ai découvert la Chaux-de-Fonds grâce à un ami horloger français qui était venu s'installer donc à la Chaux-de-Fonds, qui vit toujours. Et puis là, j'ai découvert une ville à taille humaine, donc c'est une notion très importante, hein, un peu moins de 40 000 habitants, pardon, à la Chaux-de-Fonds, avec des infrastructures culturelles, des théâtres, des infrastructures sportives, la nature à portée de main, et surtout une énergie alternative qui m'a beaucoup plu. Voilà. C'est ce qui m'a fait rester à la Chaux-de-Fonds. C'est vraiment la possibilité de pouvoir vivre dans une ville à l'échelle humaine, hein, de taille à l'échelle humaine, et puis avec toute cette énergie qu'il y avait, hein, au départ, c'est Bikini Test, la salle rock, c'est un festival d'art de rue, la plage des Six Pompes, tout ça était en train de se monter quand je suis arrivée, et ça m'a fascinée.
Et vous êtes très vite investie aussi dans du bénévolat, c'est ça, Sylvie Balmer ?
Oui, j'ai participé effectivement à Bikini Test, à la plage des Six Pompes, la foire du livre du Locle. Je me suis engagée dans tous ces
événements. Donc tout de suite partie prenante, en fait, c'est ça ?
Assez rapidement, je dois dire, oui, assez rapidement. En fait, j'ai compris finalement pourquoi je m'ennuyais à Paris. J'ai réalisé que j'étais plus une consommatrice, en fait. Dans les villes, on est souvent consommateur de culture, hein, on va au spectacle, on va au musée, on a un choix énorme. Et puis, en fait, dans les montagnes neuchâteloises, eh ben, il n'y avait pas toute cette vitrine-là, et les gens ont dû se prendre en main et construire, eux, la salle rock, la cave jazz, le festival des arts de rue. Et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus intéressant d'être acteur culturel plutôt que consommateur de culture, même sans être artiste. Voilà, le bénévole qui sert les bières à la plage des Six Pompes, eh ben quelque part, il est aussi acteur culturel. Et c'est ce que je trouve intéressant.
Intéressant cette différence entre la consommation de culture et l'action de culture et les petites villes qui rendent les gens plus forcément acteurs et actrices. Si je vous comprends bien. Merci Sylvie Balmer pour ce premier rendez-vous donc avec la Chaux-de-Fonds, avec les montagnes neuchâteloises et votre mari, si j'ai bien résumé, et votre fils Roméo. Voilà.
Exactement.
Elle est comme ça Sylvie Balmer.
On n'oublie personne.
Anne-Dominique Chevalet, de votre côté, ce premier rendez-vous, il nous emmène où ?
Alors ben ça ressemble un petit peu au premier rendez-vous de Sylvie Balmer parce que moi aussi tout est parti grâce à la rencontre avec mon compagnon. À l'âge de 23 ans en fait, moi j'avais pas de copains. Tout le monde avec des copains, des copines, enfin sortait avec des gens et moi pas et je m'étais dit bon. Visiblement, c'est pas pour moi le prince charmant, donc j'ai fait une croix là-dessus. Et puis un jour, j'habitais dans un parc public à Lausanne, à la Gothéta, c'est-à-dire il y avait deux très belles maisons dans ce parc public.
Ok, très bien. Voilà. Je me disais, elle avait peut-être sa tante, un truc de punk.
Non, fantastique, de vieilles maisons extraordinaires. Et puis dans une de ces vieilles maisons, mais il y avait un barbu qui habitait tout en haut. Puis on me disait qu'il était un peu bizarre. Et puis en fait, c'est devenu mon compagnon. Ça fait 33 ans qu'on vit ensemble.
C'est la barbe qui vous a plu, Dominique Chevalet,
non,
c'est ça ?
Non, pas forcément. En fait, j'ai pas eu le temps de beaucoup le rencontrer parce que moi, j'avais prévu de partir 3 mois au Brésil. Et puis je l'ai rencontré quelques semaines avant de partir. Donc en fait, je l'ai rencontré grâce à une vente parce que je vendais mes affaires pour pouvoir partir de manière légère au Brésil. Et puis voilà. Qu'il est venu m'acheter une poêle à frire.
Et ben voilà. Voilà, vous êtes passé à la casserole. Oh pardon.
La poêle à frire, exactement, sans matière grasse. Non, je rigole, mais enfin, voilà. Et puis c'est vrai que j'avais quand même envie de parler d'une autre rencontre, mais parce que avec lui, 10 ans après, finalement, on a eu un fils. Et je dois dire que comme la créativité, moi, c'est ce qui me fait vibrer. Le fait de créer un bébé malgré nous, hein, parce que bon, peut-être que le premier geste, il est, je sais même pas s'il est voulu, on choisit pas forcément, mais de le voir, de le sentir grandir, et puis tout d'un coup, un jour, il est là, il sort du ventre, moi il est sorti par la voie du milieu, la fermeture éclair, voilà, j'ai pas pu choisir, on a dû fixer un rendez-vous avec l'obstétricien, enfin c'était bizarre, et j'en revenais pas de regarder ce petit être, qui était là tout bien fait, que je ne connaissais pas, que j'avais juste senti, et ça c'était quelque chose de formidable. Et c'est vrai que ce premier rendez-vous, cette la naissance de quelque chose, c'est finalement quelque chose que je revis de manière très régulière dans la pratique de mon métier.
D'art-thérapeute, c'est ça.
D'art-thérapeute, ouais. Parce que c'est une manière d'accompagner les gens à être soi. À oser être soi, à oser être eux-mêmes à travers les matières et les couleurs. Et c'est quelque chose qui touche un peu cette émotion-là que je revis. Du reste, ça m'émeut d'en parler. Ça me fait un peu des frissons parce que c'est très fort au niveau de l'humain, en fait. Et voilà, c'est ça.
C'est joli, Anne-Dominique Chevalet. Je vois que ça vous touche. Je vais vous demander, Anne-Dominique, de poser des questions à Sylvie Balmer. Et je me retire du micro et après, on inverse les rôles. C'est parti, c'est à vous de vous découvrir.
Alors Sylvie, en fait, quand on arrivait sur le parking, je vous ai vu à côté de moi, mais je savais pas que c'était vous. Je me suis dit, peut-être c'est elle. Vous aviez une petite tasse en fer blanc. Je me suis dit, waouh, elle est super organisée. Et puis, donc vous buviez quelque chose. Et puis après, vous êtes venu chercher quelque chose. Vous êtes revenu dans votre voiture et vous aviez un sac incroyable en cuir qui semble visiblement un sac qui a vécu. Et je me suis dit, mais ça doit être une baroudeuse. Je me demandais quelle était l'histoire de votre sac.
Alors, je suis pas tant une baroudeuse que ça. Hein. Ce sac, il vient pas du bout du monde, mais c'est un artisan ardéchois qui l'a conçu et créé. Et puis voilà, il y a quelques années. Alors, il est pas vieux, mais... Peut-être je suis pas super soigneuse. En tout cas, c'est vrai que je le traîne partout. Je suis pas le genre de fille à avoir beaucoup de sacs à main, beaucoup de bijoux, beaucoup de choses comme ça, 1000 paires de chaussures. Donc en général, quand j'ai quelque chose, et ben voilà, je l'utilise jusqu'au bout. Et puis dans ma tasse en fer blanc, il y avait du thé. J'ai toujours des sachets de thé sur moi comme une vieille anglaise. Je bois jamais de café parce que je suis trop énervée pour ça. Sinon, on voit les traces de pas au plafond. Donc, mais par contre, j'ai toujours des sachets de thé sur moi et j'en porte toujours ma tasse en fer blanc et mon thermos de thé.
Waouh, merci. ça répond à ma question, en tout cas du moment. Autrement, c'est vrai que je trouve extraordinaire l'idée que vous ayez... Ça me fait penser à un projet un peu pharaonique, ce que vous avez fait. Donc, je connaissais pas du tout. Je me suis dit, il faut absolument que j'aille au Locle. Et c'est vrai qu'il y a une résonance qui, moi, me parle beaucoup de voyages artistiques, de rencontres extraordinaires avec des musiciens, des artistes, ou je ne sais pas quels artistes vous accueillez, en fait, dans votre espace.
Alors, en fait, on a commencé en 2011 par accueillir des artistes toutes disciplines confondues. Autant des écrivains, des photographes, des comédiens, vraiment très, même des compositeurs pour de musique pour jeux vidéo, hein, des Japonais qui sont arrivés de Tokyo, en l'occurrence les compositeurs de la musique, de la bande originale du jeu vidéo Final Fantasy, que je connaissais pas du tout alors que c'est super connu. Mais et puis ils sont restés 6 mois au Locle pour composer ça. Donc au départ, pendant 8 ans, on a vraiment accueilli des artistes qui venaient développer des projets. Encore une fois, toutes disciplines confondues, qui venaient parfois de très loin, hein, Tokyo, New York, Moscou, puis aussi d'un petit peu moins loin parfois. Et on a commencé par ça. Ensuite, on a décidé de passer de l'événementiel au pérenne. Alors pas à l'éternel, hein, parce que rien n'est éternel, mais en tout cas, parce que ça demande énormément de travail de développer, vous le savez, puisque vous avez travaillé, vous travaillez aussi dans la culture. Et puis, on a pensé au street art, qui permet de rester toujours dans cet accès libre à la culture, hein, c'est ce qui a motivé aussi mon engagement dans, par exemple, la plage des Six Pompes, festival des arts de rue de la Chaux-de-Fonds, ou bien la foire du livre du Locle, des événements culturels en accès libre, et le street art permet de faire ça. Et puis ça se prête bien aussi à une ville périphérique comme le Locle. Puisque le street art, c'est un petit peu la voix de ceux qu'on n'entend pas. En tout cas, c'est comme ça que ça a pris son essor dans le Bronx américain dans les années 80. Et je trouve intéressant d'apporter de la culture dans des zones où elle est moins présente que dans les grandes villes où c'est plutôt saturé. Voilà.
Et donc là, vous parlez aussi beaucoup de choses que vous exercez, on va dire, pour l'extérieur. Et au niveau de votre intérieur, qu'est-ce qui vous fait... Bon, évidemment, ça doit vous faire vibrer, c'est un métier vibrant, hein, mais quelle est votre petite robe noire, votre truc à plumes qui fait que vous avez des étincelles dans les yeux et que vous vous sentez pleinement vivante?
Alors moi, j'aime beaucoup la rencontre, hein, avec les gens. Donc ça, la rencontre, ça s'exerce à la fois dans le projet d'Exomusée, puisqu'on rencontre des artistes du monde entier, et puis aussi dans le cadre de mon travail pour Arc Info, où je travaille pour la rubrique locale des montagnes châteloises depuis une vingtaine d'années maintenant. Et puis ça, c'est magnifique parce que je peux passer le matin dans une fromagerie, l'après-midi avec un chirurgien. Enfin voilà, il y a une variété de personnes souvent passionnées par ce qu'elles font. Bon, c'est aussi la femme battue, l'artiste maudit. Enfin voilà, hein, toute une catégorie de population, des gens très différents. Et voilà, ça, j'aime beaucoup ça. Voilà. Quant à la création, personnellement, moi, je fais du collage, mais c'est vraiment des œuvres personnelles. Enfin, voilà, ce qui compte pour moi, c'est pas la production montrée. En fait, ça me paraît compliqué. Il faut encadrer. Voilà. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment l'instant de grâce où on est en train de créer, en s'affranchissant complètement de l'idée que quelqu'un puisse regarder votre boulot. Donc, j'écris aussi, et puis je fais du collage, mais c'est vraiment réservé au domaine privé.
Le jardin secret de Sylvie Balmer. J'ai l'impression que ça résonne aux oreilles de Anne-Dominique Chevalet. On verra ça, mais on va inverser les rôles si vous le voulez bien. Sylvie Balmer, c'est votre tour de lui poser des questions. À vous de jouer.
Alors Anne-Dominique, moi je suis curieuse donc de savoir comment s'exerce votre activité culturelle, comment s'est exercée votre activité culturelle dans une grande ville comme Lausanne. Alors est-ce que c'est plus facile que dans une petite ville? Vous avez géré un théâtre. En même temps, il y a énormément de choses. On a l'impression qu'il y a beaucoup de moyens dans une grande ville. Il y a le public, mais en même temps, il y a une vraie concurrence, puisque vous êtes, il n'y a pas qu'un théâtre à Lausanne. Alors, comment ça s'est passé pour vous?
Alors, c'est vrai que le festival La Cité, puisqu'on parle de ce festival, c'est un festival qui est gratuit. Donc là déjà, ça enlève une sacrée épine du pied. On n'a pas besoin de faire venir des gens. Oui, les gens viennent, mais viennent d'autant plus. Ils n'ont pas besoin de payer d'entrée. Mais ce que je trouve très intéressant finalement, c'est que ce soit dans un immense festival comme le Paléo Festival ou dans une ville, il y a toujours des quartiers. Et donc là, au Festival de la Cité, on était dans un quartier et il fallait déjà rencontrer les gens du quartier parce que le Festival de la Cité, c'est un énorme envahisseur. Hein, pendant une semaine, il y a du bruit, il y a des saletés, enfin bref, il y a tout ça. Et donc, c'était de nouveau une histoire de rencontre. C'était comment aller à la rencontre des gens du quartier pour les fédérer autour de ce projet. Et on a eu créé, entre autres, un spectacle avec eux qui les impliquait vraiment un projet de quartier, mais un projet artistique avec une metteur en scène, Anne-Cécile Moser, qui avait conduit ce projet-là. Donc finalement, que ce soit une petite ou une grande ville, c'est toujours une histoire de rencontrer les gens, de les approcher, de les écouter, parce qu'il y avait aussi des gens furibards, je me rappelle, hein, qu'il fallait aussi éponger, accueillir ce qu'ils avaient à dire, et puis peut-être leur expliquer autrement, ou les faire intégrer le festival pour qu'ils puissent y trouver leur compte et puis y trouver leur place en fait.
Sylvie Balmer, encore une question ou je reprends la main?
Alors vous avez choisi de vivre en dehors de la ville aujourd'hui. Vous êtes plutôt
Oui, c'est-à-dire que j'ai à Lausanne, j'ai habité dans différents quartiers, Sougar, etc. Et j'ai eu la chance d'habiter dans un parc public, oui en effet, dans une très très belle maison de maître qui maintenant est démolie. Et donc, on n'arrivait pas à trouver un appartement qui nous convienne à Lausanne, dans le sens où, pour moi, c'est très important d'être dans la nature. J'ai l'impression que dès que je quitte la nature, je me coupe de mes racines, en fait, je dégénère. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu l'occasion d'habiter dans un petit village dans l'ouest lausannois. Et puis, donc voilà, donc je suis tout près de Lausanne. Du reste, mon atelier d'art-thérapie est à Lausanne, dans mon ancien quartier, à la rue Juste-Olivier.
Vous êtes née, je crois, Anne-Dominique Chauvet.
Oui, je suis née tout près à la clinique Montchoisy. Donc, non, mais c'est drôle, je me retrouve dans la maison où ma mère allait chez le coiffeur quand j'étais petite. C'est plus du tout le même coiffeur, il y en a toujours un. Et donc, voilà, donc je suis dans cet atelier. Mais moi, c'est vrai que j'aime la ville. Mais j'aime pouvoir m'en extraire. Et c'est vrai que nous, je trouve qu'en Suisse, on a la chance que non pas quelqu'un qui habite dans un slum à Bombay, par exemple. On peut tout de suite sortir de la ville et aller dans la forêt, dans les prés au bord du lac. Et ça, c'est extraordinaire comme source de jouvence, on va dire.
Anne-Dominique Chevalet et Sylvie Balmer sont les invités de Premier Rendez-vous. On va partir avec un premier titre de Clara Luciani. Un petit hommage aux fêtardes que vous êtes, je crois, parce que vous avez la fête en vous, Sylvie Balmer et Anne-Dominique Chevalet. Respire encore sur la première.
Dans le soir, débraillé dans le noir, il faudra réinventer.
Soupir de Clara Luciani sur la première avec ce titre Respire encore. Vous écoutez Premier Rendez-vous aujourd'hui dans l'émission. Deux invités, Anne-Dominique Chevalet, art-thérapeute, et Sylvie Balmer, journaliste localière pour Arc Info, mais surtout co-créatrice de l'Exomusée au Locle. Une enfilade de superbes mosaïques, fresques et autres dessins sur les murs du Locle. Je crois qu'aujourd'hui vous avez à peu près 21 œuvres de prévues, enfin disons d'existantes.
Oui, on en a une vingtaine, on en a 22. En ce moment même, on accueille un artiste, donc 23e, qui s'appelle Wok Wok, qui vient de Saint-Étienne et qui intervient dans l'espace urbain avec des petites œuvres, des petites choses. On n'est pas du tout dans la fresque monumentale avec lui. C'est vraiment des petites œuvres à découvrir au coin d'une rue et qui sont souvent très très rigolotes.
J'ai en tête, Sylvie Balmer, l'énorme gentiane de Mona Caron, une artiste tessinoise qui vit désormais à San Francisco, qui elle, pour le coup, pratique ses grandes fresques à Sao Paulo, dans différentes mégapoles. Et en fait, qu'est-ce qu'elle est venue faire au Locle?
Alors, qu'est-ce qu'elle est venue faire au Locle? Elle a répondu à notre invitation.
Comment ça se passe justement? Parce que pour que les artistes viennent à vous, ils vous trouvent pas sur Internet. Enfin, comment vous arrivez à attirer dans vos filets, si j'ose dire, avec la Luxor Factory, autant de, on va dire, de gens fameux, qu'on courtise parfois difficilement? Comment est-ce qu'ils font pour arriver là et profiter de l'altitude?
Alors, on les attire en leur racontant une belle histoire, en fait. L'histoire de la région, que François et moi, on trouve fascinante, très intéressante, peut-être parce qu'on vient d'ailleurs et puis que les gens de la région eux-mêmes ne voient plus l'intérêt de cette histoire. En fait, effectivement, ces artistes, c'est des stars internationales et puis ils bénéficient d'une visibilité beaucoup plus importante quand ils sont à New York ou Tokyo que quand ils sont au Locle. Au niveau cachet aussi, souvent, on peut pas régater avec les grands festivals, les grandes institutions qui les invitent. Mais plusieurs nous ont dit qu'ils étaient venus au Locle parce qu'ils étaient touchés par l'histoire de la région, du Locle, telle qu'on leur raconte. Hein. Par exemple, le fait qu'au Locle, on fabrique des montres prestigieuses, hein, dont certaines, la valeur peut dépasser le million de francs, et on fabrique des montres qu'on peut pas acheter. Voilà, c'est pas l'ouvrier loclois qui achète la montre. Hein. Au Locle, on fabrique des montres et c'est peut-être les Genevois, les Uriquois, voire des gens de plus loin qui les achètent. Et j'ai souvent, pour caricaturer un petit peu la chose, j'ai l'habitude de dire qu'on est un petit peu comme les Chinois de la Suisse, en fait. Savoir comme ces Chinois qui fabriquent nos jeans, qui peuvent pas s'acheter. Voilà. Et bon, il y a plein d'autres choses. Il y a ce savoir-faire horloger.
Mais ça, vous les avez pas à la pitié, quand même, Sylvie Balmer.
Non, on les a pas à la pitié, mais on casse l'image qu'ils peuvent avoir de la Suisse.
Ah, voilà.
Hein, pour eux, la Suisse, voilà, que je t'attends, les manteaux
tout
de fourrure.
Tout le monde est riche.
Voilà. Et puis, c'est pas très intéressant. Finalement, les street artists sont quand même intéressés par la voix de ceux qu'on n'entend pas, justement, le monde ouvrier. Tout ça, c'est des thématiques qui les intéressent. Voilà, allez, je dirais que casser un petit peu l'image qu'ils peuvent avoir de la Suisse, c'est un peu ça le deal. Après, ce savoir-faire horloger qui est distingué
avec
à l'UNESCO,
le patrimoine mondial de l'UNESCO,
voilà,
ouais.
c'est aussi fascinant. Hein. C'est des gestes qui ne peuvent pas être remplacés par la machine. Aujourd'hui, c'est rare et c'est précieux. Et voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, une chose importante, c'est que le parcours est thématisé. Il n'a pas juste vocation d'embellissement de la ville. Donc, il raconte l'histoire de la ville.
Donc, toutes les fresques, ont un contexte, racontent quelque chose de l'histoire du Locle et puis des gens qui la font?
On va dire la grande majorité des fresques, oui. Là, cet été, on a fait venir un artiste de Londres, Chokwan. Pareil, Chokwan, lui, il est habitué aux grandes capitales et puis aux très gros cachets. Et s'il est venu au Locle, c'est parce qu'on lui a raconté l'histoire de ces travailleuses du radium. Donc, c'est Radium Girl qui posait la peinture luminescente sur les cadrans des montres pour qu'on puisse voir l'heure dans la nuit. Et puis voilà, c'était un progrès à l'époque. On s'est rendu compte qu'au niveau sanitaire, en fait, c'était une catastrophe. La Confédération a d'ailleurs lancé une vaste campagne de dépollution depuis 2015. Ben voilà, c'est cette histoire-là.
Parce que c'est radioactif, cette peinture, c'est ça, hein?
Oui, oui, c'est radioactif, exactement. Après, ils ont laissé tomber ce procédé, ils ont fait d'autres choses, mais forcément, c'est radioactif pendant très, très longtemps. Ce qui fait qu'aujourd'hui encore, il y a des usines, mais aussi des appartements, puisqu'il y avait beaucoup de travail à domicile. immeubles qui sont contaminés. C'est beaucoup plus difficile d'identifier les appartements.
D'ailleurs, Sylvie Balmer, je crois que vous habitez vous-même dans une ancienne entreprise horlogère.
Exactement. Elle a été contrôlée.
Et alors,
il n'y avait pas de radium. Mais on a pu voir un petit peu comme c'était compliqué. Hein. Donc, ça a pris 2 jours. Ils contrôlent tout à plusieurs niveaux du sol. Voilà, les placards, la cave, le grenier, les balcons, le jardin, tout. Donc, effectivement, c'est problématique.
Et donc, en fait, cette histoire de radium a été représentée par une fresque par cet artiste londonien. Mais qu'est-ce qu'il a inscrit, en fait? Qu'est-ce qu'il a représenté?
Alors, il a représenté la main de cette femme. Lui, c'est un artiste du X-ray. Il représente vraiment toujours des objets radiographiés ou des personnages radiographiés. Donc là, il a représenté la main de l'ouvrière. Donc maintenant, il ne reste plus que les os. Elle a perdu toute sensualité et qui tient ce stylet avec le radium à l'intérieur. Elle est en train de le poser sur le cadran. Et puis, c'est un diptyque. Il a aussi représenté une fleur dans laquelle il a taillé de sorte à ce que on ne voit plus que le signe du radium.
À voir à quelle adresse, au loc, Sylvie Balmer?
Alors, au bas de la rue Alexis-Marie Piaget. Et puis au croisement avec la rue des Anvers, on va dire rue des Anvers 63.
Vous êtes précise, Sylvie Balmer.
Voilà.
Vous les connaissez toutes par cœur, ces fresques et ces endroits, et aussi ces petits bonshommes qui sont disposés parfois, notamment des petits bonshommes rouges. Ça, je ne sais pas de quel artiste c'est. C'est des petits bonhommes qui sont disposés dans certains endroits.
Oui, alors là, on n'est plus dans la peinture. C'est des sculptures de James Colomina. C'est un artiste de Toulouse, en fait, qui est venu et qui fait justement ces petits enfants gazés. C'est pas les enfants gâtés, c'est les enfants gazés. Et puis, on les a posés au locle, on a posé 2 au locle pour dénoncer le trafic absolument effroyable qu'il y a dans cette ville, puisqu'elle est traversée par 26 000 voitures chaque jour.
Ville frontalière. Donc,
ouais. Ville frontalière. Et puis, voilà, on attend avec impatience le tunnel de contournement. Mais en attendant, il y a ces 26 000 voitures. Donc, on a posé effectivement cet enfant. Donc là, on n'est plus dans la peinture, on est dans la sculpture. Pour la petite histoire, James Colomina était prothésiste dentaire. Donc, il travaillait la résine. Et c'est ce qui lui a donné l'idée de passer à une œuvre plus créative avec cette résine.
Pour ceux qui sont derrière leurs ordinateurs, si vous avez envie de voir à quoi ressemble justement cet exomusée et toutes ces œuvres en plein air, une seule adresse, exomusée.ch, tout en un mot. Exo, comme exosquelette, comme exo, qui veut dire quoi?
Comme exotique, qui veut dire à l'extérieur.
C'est ça.
Donc c'est le musée à l'extérieur.
Tout à fait Covid compatible.
Ah bah complètement, parce que si on ferme le musée, on ferme la ville. Ça, ce n'est pas possible. Donc visible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans billetterie, gratuitement. Puisque la condition pour qu'on pose une œuvre quelque part, c'est qu'on puisse effectivement la voir non-stop, quoi. Et puis,
Bienvenue au Locle, Sylvie Balmer. C'est ça votre message
exactement,
de fond.
C'est bien ça.
On y reviendra. Petite transition vers vous, Anne-Dominique Chevalet, parce que pour vous, l'art fait rayonner les humains, leur permet de faire de l'introspection, leur permet de guérir aussi, certainement. Pour vous, Sylvie Balmer, c'est l'art qui répare un peu la ville, d'une certaine manière, et l'image de la ville. Comment vous faites cette translation-là, entre guillemets, entre les villes qui peuvent bénéficier d'œuvres d'art et qui les transforme et qui aide aussi peut-être aux citoyens et citoyennes à l'apprécier, à peut-être à la voir plus belle, et puis à l'art qui est fait par les gens et notamment des gens qui ont besoin de travailler quelque chose en eux.
Oui, alors il y a plein de choses dans votre question. J'ai déjà une image qui me vient par rapport à l'art en ville, hein, parce que j'ai envie de parler de géographie intérieure. Quand on fait de l'art en ville ou un festival éphémère en ville, par exemple, la personne qui va visiter l'endroit où il aura vu un comédien sur un arbre réciter un texte, et bien chaque fois qu'il passera devant cet arbre, il n'aura plus la même vision. De la même manière, quand une personne va expérimenter une sensation qu'elle a à l'intérieur, par exemple un geste, hein, le geste, elle a envie, par exemple, de quelque chose qui rebondit, Je lui proposerai de faire de la peinture avec un ballon baudruche. Et puis, c'est quelqu'un qui pourra peut-être pas utiliser sa main dominante, mais qui utilisera l'autre main. Et puis, le fait d'avoir fait ce geste de, avec le ballon baudruche, de voir les mélanges de couleurs que ça fait, et de voir qu'elle est capable, malgré tout, de faire quelque chose, ça va changer sa perception d'elle-même. Ça va changer sa vision de, sa géographie intérieure. Ça va permettre de nouveaux territoires, de nouveaux espaces, et de nouvelles possibilités, en fait. Et c'est ça qui est fou, justement, quand on utilise les techniques artistiques, parce que des fois c'est un mot un peu bizarre, hein, l'art thérapie, on se dit mais est-ce que je dois savoir dessiner, est-ce que je dois savoir sculpter? Pas du tout. C'est vraiment une manière, c'est comme un peu une méditation où on se relie à soi-même, à ce qu'on sent dans l'ici et le maintenant. C'est vraiment quelque chose comme ça. Et c'est dans un endroit, ça peut se passer que dans un endroit qui est vraiment très bienveillant, qui est non-jugeant, qui est clos, donc il n'y a pas de spectateur. Et puis comme ça, on peut se laisser aller à juste ressentir, voilà, qu'est-ce que j'ai besoin de quoi? Est-ce que j'ai besoin de quelque chose qui me résiste? Parce que dans ma vie, finalement, il y a quelque chose qui me résiste. On ne fait pas tout de suite les liens, hein, mais on les fait après les liens. Ou bien au contraire, mais j'ai besoin de quelque chose qui coule, de fluidité. Et puis là, juste le fait d'appuyer le pinceau sur un papier qui est mis verticalement, puis de juste laisser voir les gouttes qui tombent de couleur, ou les gouttes noires qui tombent, qui se mélangent, ça fait vraiment des effets à l'intérieur. Et, ça, et voilà, c'est un peu, comment dirais-je, dans un atelier, c'est une sorte, on est un peu des alchimistes. Et puis c'est vrai que dans cette séance d'art thérapie ou de créativité, alors on peut aussi utiliser ce moyen-là en dehors de la thérapie, mais on est toujours trois, je dirais en tout cas. Il y a la personne qui crée, il y a le thérapeute ou l'animateur, on va dire, en l'occurrence moi, et puis il y a l'œuvre. C'est vraiment cette triade, il se passe quelque chose là autour. Et quand les personnes ont fini leur œuvre, ça peut prendre plusieurs séances, mais des fois c'est juste un geste dans une séance. En regardant, en prenant un peu une distance, en regardant de manière très factuelle, donc sans jugement, les traits, les taches, les mélanges, au contraire les couleurs qui se séparent pas, ça peut faire, on peut tisser des liens avec sa propre vie, avec sa propre histoire ou avec ses propres traumatismes. Et puis c'est une manière d'oser les traverser, on va dire, de manière sans danger, tout à fait sécure. Et puis ce qui fait qu'on peut faire des pas de plus, on peut les apprivoiser, aller un petit peu plus loin que ça, par rapport à ça dans la réalité.
Anne-Dominique Chevalet, les gens qui viennent chez vous, de quoi souffrent-ils?
Il y en a qui, ça dépend, hein. Il y en a qui viennent pour du développement personnel. Je travaille aussi beaucoup avec des gens qui ont la sclérose en plaques. J'anime un atelier pour la Société suisse de sclérose en plaques. J'ai travaillé beaucoup avec des gens qui ont eu des AVC. Donc, quand vous avez un AVC et puis que vous êtes privé de parole, que tout d'un coup, il y a un de vos côtés qui devient paralysé, comment vous faites? Comment on peut exprimer et sortir ce qui s'est passé à l'extérieur de soi et le faire partager aux autres? Je travaille aussi avec des personnes en fin de vie, avec des lourdes démences. Et puis là, j'ai une anecdote, je crois qu'il faut que je vous la raconte. En plus, je peux parce que la personne est décédée. C'était un monsieur de plus de 80 ans, et puis qui avait un regard bleu turquoise magnifique, et qui était en chaise roulante, qui avait donc une négligence droite, donc il était paralysé du côté droit. Et puis on se connaissait un peu, mais pas très très bien. Et puis un jour il vient, puis je lui dis mais de quoi vous auriez envie, de vous auriez besoin? Et puis il me dit je veux baiser avec vous.
Non.
Là, j'étais qu'est-ce que je fais? Je me sentais vraiment bizarre.
Vous n'êtes pas une sexothérapeute, hein, Dominique Chevalier.
Non. Puis je me sentais vraiment bête avec mes petites couleurs. Puis je lui ai dit, écoutez, j'entends enfin que vous avez besoin de contact, d'intimité. Je peux pas vous l'offrir sous cette forme, mais qu'est-ce qu'on pourrait trouver pour travailler ça? Et puis, il a choisi l'encre de couleur. Alors, voilà, vous imaginez, j'étais donc tout près de lui, parce qu'on n'avait pas d'histoire de distance à ce moment-là. Je tenais, puisqu'il utilisait sa main non dominante, donc la main gauche, je tenais la petite bouteille d'encre, il avait choisi le jaune, et il avait son pinceau, il avait choisi un assez gros pinceau qui trempait dans la bouteille et il posait ça, ce jaune, sur la feuille. Et puis après, il me dit, je veux du bleu. Alors bon, je prends l'encre bleue, il prend un autre pinceau bleu, il trempe son pinceau avec tout ce que, vous voyez ce que je veux dire, hein, d'ailleurs, dans l'encre bleue. Et là, il pose le bleu sur le jaune et il regarde et il me dit, je crée du vert. Et il regardait le jaune et le bleu se mélanger. Et pour moi, c'était une métaphore extraordinaire de la rencontre, des fluides, on va dire. Et pendant 2 ans, à chaque séance, il a fait ça. Et on se sentait un peu comme un vieux couple. Du reste, on rigolait parce que je lui disais, ah, vous trempez votre pinceau. Enfin, voilà. Mmh. Il y avait tout ce jeu-là, mais qui le rendait vivant et qui fait que, voilà, il avait pu vivre, il avait pu traverser ce besoin qu'il pouvait pas vivre autrement. De cette manière-là.
Bah, c'est délicieux comme anecdote, Anne-Dominique Chevalet. On s'attendait à quelque chose d'un peu graveleux, mais au fond, c'est tellement poétique et, ouais, ça dit quelque chose de, des moments de grâce que vous pouvez peut-être rencontrer avec vos clients, vos patients. Je sais pas comment vous les appelez, en fait, les gens qui viennent faire de l'art-thérapie.
Les deux, je sais pas non plus, ça dépend.
Que vous accompagnez dans, ouais, dans une découverte de quelque chose, d'un besoin d'exprimer quelque chose, de l'indicible, en fait. Ça passe, ça passe par, bah, justement, cette sensualité avec les crayons, les craies. Il y a quoi encore? De la terre, peut-être?
Il y a de l'argile aussi. Il y a des, on dit toujours que mon atelier, c'est une caverne d'Ali Baba parce que je récolte beaucoup d'objets. Ça peut être des objets de la nature, ça peut être des vieux plastiques, il y a toutes sortes de choses. Ouais. Mmh. Et puis, ce que je trouve formidable, finalement, c'est que quel que soit notre besoin ou notre ressenti, il est OK, on n'a pas besoin de le cacher. Mmh. Et on peut être vrai avec ça, et c'est cette vérité qui fait notre humanité et qui est belle, qui est vraiment belle. Voilà, ces petites choses-là qu'on peut suivre.
Il est question d'art aujourd'hui dans Premier Rendez-vous d'art de rue avec l'Exomusée de Sylvie Balmer et de son compagnon François. Et puis d'art plus privé, plus subtil, peut-être quelque chose d'assez intérieur avec Anne-Dominique Chevalet, art-thérapeute. On va partir en musique cette fois-ci avec qui? Avec Elton John, ça s'appelle Finish Line et c'est tout de suite sur la première.
Invités en une heure, leur premier rendez-vous. You, oh, you are still a beauty to behold. You've been my muse. Hear a story that I've told. Oh, take me back some years. When we were young with
Elton John sur la première avec ce finish line. Et nous sommes pas en finish line du tout. Nous sommes aux trois quarts de l'émission avec Sylvie Balmer et Anne-Dominique Chevalet. C'est le moment de sortir vos objets, chers invités. On commence avec qui? Avec Anne-Dominique ou avec Sylvie Balmer? Allez, Anne-Dominique, vous l'avez sous votre... Oui. Il est où? Il est là.
Ils sont là.
C'est des petits?
En fait, c'est des galets. Et il y a un galet qui est noir, qui est ovale et qui est d'une douceur hallucinante. Il est presque parfait. Et je l'avais trouvé quand j'étais aux États-Unis, à un endroit qui s'appelle Deception Pass, en dessus de Seattle. Et voilà que je l'ai perdu sur la plage. Et puis, j'ai dû le chercher. Et puis, mes potes, ils me disaient, mais t'es complètement cinglée d'aller chercher un galet sur une plage. Et je l'ai retrouvé, en fait. C'est le seul galet noir. Hein. Il est vraiment noir, comme les micros qu'on a là. Et puis, dans un autre voyage, à Neria, là, tout près de Malaga, j'ai trouvé un autre qui pourrait être son complément, tout blanc, brillant, ovale, s'il est grand de 5 cm, et qui est un petit peu moins doux. Mais ces deux galets, moi, ils me rappellent la perfection de la nature. Et puis, de les sentir, de sentir la douceur dans ma main, c'est... Ça me fait penser que des fois, il faut pas que j'oublie d'être douce avec moi-même. Souvent, j'aurais tendance à être, pas très sympa avec moi, en fait.
Dans quel sens?
Dans le sens de me juger ou d'avoir des exigences ou voilà. Et puis, alors, je sais pas si c'est avec l'âge, avec la sagesse du galet, j'apprends un peu à être, avoir plus de douceur et de tranquillité, de me dire, OK. Je suis comme je suis. Pas de soucis.
C'est pas mal. On devrait tous s'en inspirer, Anne-Dominique Chevalet. Ces petits galets me font plutôt penser au fait que parfois en voyage, on trouve des objets qu'on ramène, des petits cailloux, des images. Vous êtes aussi une grande fan de voyage, Anne-Dominique Chevalet, et plus qu'une fan, une organisatrice de voyage épicurieux. Expliquez-nous.
Alors oui, je me suis dit, mais... Qui suis-je pour organiser tout ça? Enfin, et pour faire parler, pour montrer que ces voyages étaient un peu particuliers.
Mais c'est quoi déjà un voyage épicurieux?
Alors justement,
faites la maline avec vos néologismes.
J'en viens à ça. C'est un mot que j'ai inventé, je crois. Enfin, je me suis dit, mais moi, je suis une épicurieuse. Ça veut dire que j'adore les bonnes choses à manger, à boire, à voir. Je suis curieuse, quoi. Je suis curieuse des humains, je suis curieuse des paysages. Donc, je suis une épicurieuse. Et donc, je me suis dit, je vais inventer des voyages épicurieux où on utilise tout ça pour voyager. Alors, c'est vrai que j'organise ces voyages, par exemple, en Inde. On va en faire un bientôt, du 22 janvier au 5 février, avec le voyagiste sac à dos. Et donc, on va découvrir le pays en commençant par 3 jours de cure ayurvédique. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu une cure ayurvédique, mais en fait, vous êtes tout nu, vous avez 2 ou 3 masseuses qui sont là, qui vous massent de toutes les manières possibles. Et pour moi, c'était une manière aussi de me reconnecter avec mon corps. Je crois que personne ne m'avait touchée de cette manière-là, à part quand j'étais petit bébé, en fait, finalement. Et donc, ça provoque des sensations, ça provoque des choses à l'intérieur. Je parlais de ces réminiscences quand j'étais bébé. Et puis, je me suis dit, mais dans cet endroit qui est tellement magique, où on voit la forêt de cocotiers, puis après la mer, et il y a les vols des vautours, hein, des faucons, donc il y a beaucoup d'air dans cet endroit. Et il y a un endroit magnifique pour créer. Je me suis dit, il faudrait mêler la créativité et ça. Et donc, dans ce voyage, on va aussi voyager un peu dans le Kerala, on va aller sur les maisons bateaux, on va aller à Cochin, enfin on va faire différentes choses et on aura toujours chaque jour des moments de créativité dans des endroits fermés pour justement mettre en couleur, en matière, en forme les sensations vécues pendant la journée. Et quand on reviendra, ce sera pas avec des petits galets mais avec des traces, des images, peut-être un petit carnet de couleurs et de matières. Voilà, ça c'est un voyage épicurieux.
Et donc l'art thérapeute que vous êtes, vous proposez des séances, on l'a dit, avec des institutions, mais aussi avec des privés, et vous faites ces voyages, donc c'est bien ça, vos autres activités.
Oui, voilà, puis c'est des voyages qui peuvent durer, celui-là, on va loin, donc comme l'Inde vient de rouvrir ses frontières, hein, donc ça dure 2 semaines, mais on a un prochain voyage aussi en juin, du 28 mai au 4 juin, en fait, on va aller à Istanbul, on suivra les traces de Orhan Pamuk, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le musée de l'innocence », qui relate une passion amoureuse, en fait, à travers le vol d'objets dans l'appartement des parents de la dulcinée. Et puis, en fait, le protagoniste du livre a demandé à Orhan Pamuk d'écrire ce livre et de créer un musée, le musée de l'innocence qui existe, où on voit tous ces objets. Donc c'est une histoire dans l'histoire, dans l'histoire, dans l'histoire. Et les voyages épicurieux proposent justement un voyage dans le voyage. Donc on ira au gré de ces objets du quotidien, parce que finalement, qu'on soit turc, indien ou de n'importe quelle nationalité, on a ces petites choses du quotidien qui font résonner nos propres choses du quotidien, nos propres objets. Et on va créer là autour, tout en visitant les mosquées et tout ça. Enfin, voilà. Donc on s'inspire de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on sent, et puis après on le remet en image pour soi.
L'épicurieuse Anne-Dominique Chevalet, merci pour vos informations. À partir de ces deux petits cailloux, on a tiré tout un fil. Sylvie Balmer, j'ai l'impression que la transition est toute trouvée, parce que votre objet, sortez-le, mais il me semble bien. Oui, c'est ça, c'est bien ça que j'ai vu. Voilà. Vous parliez des objets du quotidien, c'en est un, non, Sylvie Balmer?
Oui, alors c'est un petit couteau à beurre, en fait, qui me suit depuis toujours. Il appartenait à ma mère. Et puis, comme vous pouvez le voir, voilà, le manche est en résine. Et puis, il y a des inclusions de coquillages et de petits poissons qui me fascinaient complètement quand j'étais enfant. Et puis, c'est un couteau que ma mère sortait pas tous les jours. Hein, elle sortait les jours de fête, quand on recevait les invités. Voilà, il y avait des coquillages parce que c'était justement le couteau à beurre pour accompagner les plats de fruits de mer qui n'étaient pas autant farcis de métaux lourds qu'aujourd'hui. Et puis du coup voilà, c'est un souvenir vraiment typiquement de la France de ces années 60 où on recevait les repas de famille, où vous restiez à table jusqu'à 5h de l'après-midi avec toute la gastronomie française, ce qui a fait mon enfance. Et puis voilà, il se trouve que je suis pas arrivée en Suisse avec beaucoup de bagages, mais curieusement ce petit couteau m'a toujours suivi. Et puis voilà, il a une double personnalité, hein, c'est le couteau avec un côté tranchant et puis côté doux avec...
Un peu à votre image, Sylvie Balmer.
Peut-être.
Plein de fantaisie, voilà, qui aime que ça marche, soit utile, mais quand même avec de l'élégance, de la fantaisie. Et puis, voilà, un objet particulier. C'est la première fois qu'on a un couteau à beurre comme ça dans Premier Rendez-vous. Merci beaucoup, Sylvie Balmer. D'ailleurs, y a-t-il des couteaux à beurre dans les appartements, ou plutôt l'appartement de la Luxor Factory, qui est donc, je crois, en dessous ou dessus de chez vous, c'est ça? Les appartements dans lesquels vous accueillez les artistes qui viennent participer aux œuvres de l'exomuséologue, comment ça se passe? Ils viennent, ils sont comment ces artistes? Vous leur offrez le gîte, oui, le couvert, et vous les blanchissez aussi ou pas?
Non, alors on leur apporte pas le biberon d'ovomaltine le matin, donc il y a un accompagnement mais qui est quand même mesuré, ce sont des adultes, de grandes personnes. Donc ils disposent d'un appartement de 4 pièces, donc un appartement de 100 mètres carrés et aussi un atelier de 100 mètres carrés. Donc, ils peuvent venir à plusieurs si c'est un collectif, puisqu'il y a deux chambres, ils ont une cuisine, l'appartement est complètement aménagé. Maintenant, effectivement, pour ce qui est du catering, ça dépend. Ça dépend des projets. Si on a un artiste qui vient tout seul et qui a un projet vraiment d'envergure, une fresque monumentale où il va passer 14 heures par jour sur sa nacelle, on va pas lui demander de se faire à manger après. Voilà. Il y a des gens qui viennent en famille, qui ont des petites choses à réaliser et puis qui viennent en famille parce que pour eux c'est l'occasion de découvrir la région. Alors dans ce cas-là, ben voilà, c'est un peu la famille qui s'occupe du catering. Ça dépend vraiment du nombre de personnes qu'on accueille et puis du travail qu'on leur demande, du temps à disposition.
Depuis 2011, je crois que vous avez accueilli pas moins de 150 artistes.
Oui.
Ça fait quand même pas mal de monde.
Oui.
Avec quel genre d'argent vous financez ce projet de Luxor Factory et de l'Exomusée?
Alors avec de l'argent public et de l'argent privé de partenaires, hein, essentiellement la loterie romande, donc nous a beaucoup aidé. La ville du Loc nous a aidé dès le départ. Donc voilà, la loterie romande, il a fallu qu'on fasse nos preuves, il a fallu quelques années. Mais alors vraiment grand merci à la ville du Loc qui nous a accompagnés dès le départ, autant que ce soit en sonnant et trébuchant que pour apporter des chaises pour un spectacle ou des panneaux de signalisation pour dire attention, là il y a une nacelle, il faut pas passer par là. Enfin, c'est un soutien de tous les instants. Là, je viens encore de solliciter la voirie pour avoir un panneau stop qu'on va décorer. J'espère qu'ils vont pouvoir accéder à notre demande. Mais voilà, la ville du Roc nous a beaucoup aidés. Et là, je dois dire, depuis fin 2020, on a signé une convention avec l'État de Neuchâtel, le service économique et la Confédération dans le cadre de la nouvelle politique régionale. Et c'est une convention dans laquelle nous, on s'engage à faire une cinquantaine de fresques d'ici 2024. Et puis, ils nous soutiennent pendant 4 ans. Et puis alors ça, bah voilà, pour nous, c'est la reconnaissance de notre travail et puis vraiment quelque chose de beaucoup plus confortable oui. pour envisager les programmations futures.
C'est assez excellent pour vous, Sylvie Balmer, de constater l'emballement médiatique aussi. Il me semble que ça fait quelque temps que vous avez presque tous les médias qui viennent vous rencontrer, qui viennent faire des images. Forcément, ça marche très très bien parce que c'est monumental, c'est pop, c'est souvent aussi engagé comme œuvre d'art. Il y a quelque chose de très, voilà, dans l'air du temps, non, avec cet exomusée. En plus, c'est dehors, tout le monde peut y aller, c'est gratuit. Enfin, vous répondez vraiment à un besoin, non?
Oui. Alors, effectivement, bah voilà, les gens ont beaucoup envie de sortir. On l'a vu avec cette crise sanitaire. Et puis, bah voilà, le musée à ciel ouvert, effectivement, c'est coloré. Les médias aiment bien. Hein, c'est agréable à regarder. Voilà, il y a de l'image. Là, effectivement, les médias du monde entier. Hein, donc, on a eu beaucoup de médias locaux, mais on a aussi des blogs qui ont parlé de nous à Dallas, à Brooklyn. Et puis là, le prochain Graffiti Art Magazine, qui est un magazine spécialisé en anglais et en français, distribué dans 15 pays, donc a choisi de consacrer l'article principal du magazine à l'exomusée. On va avoir une petite dizaine de pages dans ce magazine le mois prochain. Donc là, oui, c'est vraiment une belle reconnaissance et on est très heureux aussi de ce retour pour les autorités du Locle qui nous ont soutenus dès le départ et aussi pour les Loclois. La population du Locle, hein, qui adhère complètement au projet, qui apporte des cafés, des chocolats aux artistes sur leur nacelle, qui les encourage par des applaudissements, un coup de klaxon en voiture quand ils passent. Et on est très heureux pour ces Loclois. Donc nous, on n'est pas Loclois. Mais de pouvoir leur apporter...
Je rappelle que vous êtes la parisienne de souche.
Exactement, je suis la frouze. La frouze qui vient effectivement essayer d'apporter...
Mais tellement dans l'âme, maintenant on peut dire carrément que vous êtes de la région. Sylvie Balmer, non?
Ouais, on peut dire ça. On peut dire que j'ai passé plus de la moitié de ma vie en Suisse.
En tout cas, merci beaucoup d'être venue dans Premier Rendez-vous pour nous parler de l'Exomusée. Vous redonnez peut-être le site internet et puis je crois que vous êtes présente sur tous les réseaux sociaux, c'est ça?
Oui, c'est ça. Alors le site internet, c'est donc Exomusée, Exomusee, donc sans accent.ch.
Merci beaucoup. Belle suite à vous, Sylvie Balmer.
Merci, Pauline.
Anne-Dominique Chevalet, de votre côté, votre site internet à vous pour l'art thérapie?
Alors, c'est atelier-anne-dominique.ch.
Et voilà, c'est tout dit, c'est tout vous, c'est tout roux comme vos cheveux. Anne-Dominique Chevalet, votre collier plein de couleurs. Belle suite à vous.
Merci, au revoir.
Merci.
En régie, aujourd'hui, c'était Yves Roulin qui assurait la réalisation de cette émission. Les choix musicaux sont signés par Willy Deselu. Sur la première, il est 15h. À demain.